Nous sommes à la fin des années 20 au Mexique. Un village s'apprêtait à recevoir un prêtre en fin de semaine. Or, à cette époque, le catéchisme, mais aussi la religion chrétienne, était devenue illégale dans ce pays. Et donc, les paroissiens se rassemblèrent de manière clandestine dans un entrepôt capable d'accueillir plusieurs centaines de personnes. La célébration commence donc. Et puis voilà qu'au bout d'un moment, en plein milieu, deux hommes armés entrent dans l'entrepôt et menacent les fidèles. L'un d'eux leur dit « Ceux qui osent prendre une balle pour le Christ restent où ils sont. Les autres peuvent sortir maintenant. Vous avez 5 minutes. » Évidemment, c'est la ruée vers la sortie. Et en moins de 5 minutes, seulement 20 personnes des 600 paroissiens reste sur place avec le prêtre. Alors rassurez-vous, cette anecdote se termine heureusement bien, puisque les deux hommes étaient en réalité des rebelles chrétiens qui souhaitaient seulement, selon leur dire, débarrasser l'Église des hypocrites. La méthode est sévère et peu miséricordieuse, nous en conviendrons, mais elle a le mérite de nous interroger, parce que dans cette situation, on peut se demander qu'est-ce que j'aurais fait à leur place. Quelle aurait été ma réaction? Ces rebelles chrétiens, vous savez, sont ceux qu'on appelle les Christeros, car ils se reconnaissaient à un cri, non pas un cri de guerre, mais un cri de ralliement. Viva Cristo Rey, ce qui veut dire vive le Christ roi. Ces hommes, ces femmes, et même ces enfants, acculés par des atrocités sans nom commises par des forces gouvernementales profondément antichrétiennes, eurent ce courage, il faut le reconnaître, dans cette situation, de ne pas baisser les bras, de ne pas se cacher, pour proclamer haut et fort qu'ils sont les enfants de Dieu, que le Christ est leur roi, et défendre leur liberté d'y croire. Heureusement pour nous, grâce à Dieu, nous ne vivons pas dans un pays qui subit une telle situation. Même si nous savons que les persécutions religieuses sont toujours d'actualité dans d'autres pays. Mais cela n'empêche pas de nous poser ces questions. Elles sont même nécessaires, j'ai envie de dire, pour notre vie spirituelle. Qu'est-ce qui a poussé ces gens à accepter de se battre et donc de risquer leur vie, de mourir pour leur foi? Qu'est-ce qui fait que, encore de nos jours, des hommes, des femmes, des enfants refusent de renier leur foi pour sauver leur vie? C'est certainement que cette foi est quelque chose d'extrêmement important pour eux, de vital, d'incontournable pour leur vie, s'ils acceptent de perdre leur vie au lieu de renier leur foi. Alors voilà, posons-nous ces questions. Est-ce que c'est aussi mon cas? Est-ce que je serais capable d'en arriver là? Est-ce que je considère moi aussi que dans ma vie, que ma vie, ma relation avec le Christ est essentielle, primordiale? Est-ce que le Christ, en gros, est le vrai roi de ma vie? Alors pas de panique, chacun a son cheminement. Si j'en suis dans les tout débuts de ma relation avec le Christ, eh ben, ces questions m'aideront sans doute à approfondir, à creuser d'abord pour en savoir davantage sur lui, pour débuter cette relation avec le Seigneur. Et puis si je suis déjà un peu avancé dans cette relation, eh ben, il ne faudrait pas que je stagne ou que je recule dans ma vie spirituelle. Et c'est l'occasion, en me posant ces questions, d'approfondir ma relation avec le Christ. Seigneur, est-ce que tu es le vrai roi de ma vie? Alors peut-être que vous posez cette question, mais comment Jésus est roi? Nous ne sommes plus trop royalistes dans notre pays. C'est un mot qui nous semble peut-être un peu désuet. Mais il vient symboliser ce règne, le royaume de Dieu dont Jésus nous parle sans cesse dans les évangiles. Jésus est véritablement roi parce qu'il est comme parole divine, verbe divin, nous l'avons entendu dans la lettre de saint Paul, il est créateur. C'est par la parole de Dieu que le monde, l'univers, visible et invisible, a pris forme. Mais il est allé encore plus loin. Parce que ce Verbe divin, la parole de Dieu, a revêtu notre chair, s'est fait l'un de nous, à partir du moment où il a été conçu dans le sein de la Vierge Marie. Et ce n'est pas rien non plus, parce que Jésus ne revêt pas notre nature humaine comme on revêt un costume, un déguisement qu'on enlève une fois que notre mission est terminée, si je puis dire. Non, pour Jésus, c'est définitif. Dieu, la parole divine, s'est fait être humain de manière définitive. Il a assumé pleinement notre humanité et en cela, nous pouvons le reconnaître comme roi parmi nous, comme l'un d'entre nous. Et puis enfin, il a consacré pleinement cette royauté par une conquête, si l'on peut dire. Nous l'avons entendu dans l'Évangile, en apparence vaincu sur le bois de la croix, humilié et meurtri, encadré par deux malfaiteurs. En réalité, Jésus reprend ce qui lui revient de droit à ce moment-là. On peut dire même que cette croix devient son trône, car en mourant sur la croix, il est victorieux de la mort et du péché, et il reprend ce que le diable, prince de ce monde, comme il l'appelle lui-même, avait usurpé. Nous le voyons donc, notre roi ne règne pas à partir d'un trône lointain sur son petit nuage, mais bien au milieu de nous, avec nous, comme l'un d'entre nous. Alors certes, d'une manière cachée, on aimerait bien voir davantage les effets, les manifestations de son règne dans notre quotidien. Malheureusement, nous sommes dans notre monde où ce règne est caché, même s'il agit toujours. Peut-être que, un peu comme le prophète Isaïe qui disait au Seigneur, « Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, Sauveur. » Peut-être que nous nous posons cette question, où se cache-t-il alors dans notre monde, dans notre communauté? Où est la cachette du roi de gloire? Toute la parole de Dieu nous le répète sans cesse. Dieu est auprès des petits, des pauvres. Dieu se cache dans les pauvres. Vous savez que ça, Mère Teresa avait fait une expérience très forte là-dessus. Hein. C'est en découvrant la présence de Dieu, de Jésus chez un pauvre, qu'elle a décidé de leur consacrer toute sa vie. Vous connaissez peut-être cette histoire qui vient du roman de Mark Twain, « Le prince et le pauvre ». Bon, si l'auteur ne vous dit rien, l'histoire peut-être vous dit quelque chose, puisqu'elle a été aussi reproduite en dessin animé avec Walt Disney, où le fils du roi d'Angleterre, le petit prince, échange ses vêtements, échange sa place avec un mendiant qu'il rencontre et qui a le même âge que lui. Et il va se retrouver au milieu de la foule, du peuple. Eh bien, Jésus de même se veut un roi méconnaissable au milieu de ses sujets, pauvres parmi les pauvres. Alors, voulons-nous que le Christ règne dans nos vies? Voulons-nous reconnaître sa royauté et nous mettre à son service? Alors à nous d'être inventifs, de nous saisir de cette charité qui est l'expression du règne de Dieu. Dieu règne par l'amour. Saisissons-nous de cette charité, de cet amour, et mettons-nous au service justement de ceux au milieu de qui le roi de gloire se cache, auprès des petits, auprès des pauvres, auprès des personnes isolées. Nous en connaissons forcément, au moins une personne isolée. Il y a des gestes tout simples. Leur porter la communion, par exemple, si elles ne peuvent pas se déplacer le dimanche à la messe. N'hésitons pas à le proposer, n'hésitons pas à les visiter. Mettons nos qualités personnelles, notre énergie et tout ce que nous sommes au service de ce règne de Dieu. Le Christ n'est pas à la tête d'une armée de clones qui combattent tous de la même manière, mais d'une armée de saints avec leur personnalité propre, leurs histoires, leurs intuitions, leurs aventures. À nous d'être acteurs dans cette aventure de la sainteté pour que le Christ règne. Amen.